J'espère que ce manque de voir. Alors, si de là où vous êtes, vous ne voyez pas, il y a des places qui sont libres là, où on voit peut-être un petit peu mieux. J'ai regardé tout à gauche ici. Nous allons retrouver aujourd'hui nos amis Moïse. Hein? Mais à l'époque où ils venaient tout juste de faire sortir, le mot en grec c'est Exode. Et nous connaissons ce mot, hein, mais lorsque nous disons Exode, même dans la Bible, ce n'est pas un mot français, hein, c'est un mot grec qui signifie le chemin de départ. Donc il vient de prendre ce chemin, le Seigneur leur a permis de sortir de l'Égypte et de voir même englouti dans la mer Rouge toutes les armées, hein, surtout les chars du Pharaon. Et c'est là où nous avons terminé la dernière fois avec Moïse et tous les Israélites qui étaient sur l'autre rive et qui chantaient, qui laissaient éclater leur joie voyant la délivrance de l'Éternel. Leur rédemption était finalement achevée complètement. Et pourtant, ce n'était pas la fin de l'histoire. Loin de là. Parce qu'il fallait qu'ils marchent en avant vers la terre promise que Dieu avait promis à nos ancêtres. Et alors, cette verge que tenait dans la main Moïse, hein, quand ils étaient encore en Égypte, et qu'il levait, hein, pour signaler les 10 plaies que Dieu allait faire abattre sur la nation d'Égypte, est devenu entre ses mains un bâton de berger. Parce que c'est lui qui allait passer à la tête du peuple pour les conduire vers cette terre promise, vers le Canaan. Et voilà, ils partent donc ensemble, ils ont un long chemin à faire ensemble. Et quand on dit bâton de berger, c'est vrai, il est un berger, comme il avait passé les 40 années précédentes comme berger des moutons, hein, chez les Madianites, il devient le berger du peuple de Dieu. Et qui dit berger, dit aussi quoi? Pasteur. Je ne sais pas si vous savez que les deux mots-là, pasteur et berger, signifient le même métier en fin de compte. Un berger, c'est un pasteur est un berger. Alors nous allons voir ce matin Moïse qui est le pasteur, en quelque sorte, le berger qui conduit son troupeau, Israël. Il n'est pas là ce matin. Il rougirait sans doute quand il voit ça. Mais je pense que nous sommes contents. Hein. Nous sommes très contents d'avoir dans notre église le pasteur Nicolas, tout le travail qu'il fait avec son épouse également, n'est-ce pas, pour nous conduire dans les voies du Seigneur, pour conduire aussi toute l'Assemblée, hein, dans ses activités. Et c'est formidable. Vous savez que ça fait plus de 21 ans maintenant qui sont ici dans l'église. Si, mais c'est pas seulement mes souvenirs, mais j'ai fait ma petite enquête et je pense que c'était en 1999 qu'ils sont arrivés ici, donc ça fait, ben, on est en 2020 plus, hein, 21 ans qu'ils sont là parmi nous à l'œuvre du Seigneur. Mais pour nous servir également. Et nous ne pouvons que dire quoi? Merci Seigneur, hein? Merci pour eux, merci pour le travail qu'ils font au milieu de nous. Vous savez, c'est d'autant plus remarquable qu'il y a des églises en France qui regardent vers le pasteur et se disent, oh, il prend de l'âge. Peut-être d'ici quelques années, nous n'en aurons plus. Ou il y a encore des églises qui n'ont pas de pasteur. Hein? Quelqu'un pour les conseiller, les diriger, etc. C'est vraiment un grand privilège que le Seigneur nous donne d'avoir un pasteur ici dans notre église, et nous sommes reconnaissants pour lui. Et je me demande si quelquefois, voyant le besoin qu'il y a en France, voyant le besoin qu'il y a dans le monde, si quelques-uns, peut-être parmi nous, n'avons pas senti le petit doigt du Seigneur le tapant sur l'épaule pour dire, mon frère, j'aimerais que toi aussi tu te lèves pour servir le Seigneur. C'est possible, et si c'est le cas, eh bien, nous connaissons ce verset dans la Bible qui dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alors, le mot qui est employé ici n'est pas pasteur, c'est le mot évêque. Il faut savoir qu'à l'époque où ce mot était mis dans la parole de Dieu, dans des églises, on appelait le pasteur évêque. Et cela pendant plusieurs siècles. Nous disons couramment pasteur, oui, disait évêque. Il y a trois mots dans le Nouveau Testament pour désigner ce responsable dans l'Église et qui montrent que le rôle de ce responsable a plusieurs facettes. Le mot évêque, justement, est un mot qui signifie un surveillant, quelqu'un qui supervise, on dirait peut-être aujourd'hui un contremaître, hein, comme nous connaissons dans nos usines ou ailleurs, il y a différents titres pour cela, mais c'est quelqu'un qui dirige et qui supervise le travail d'une équipe ou de toute une assemblée. Et donc, on comprend pourquoi on appelait à l'époque les pasteurs des évêques. Et puis, il y a le mot ancien qu'on trouve également quelquefois. C'est un mot qui est tiré déjà de l'Ancien Testament, mais qui est un mot qui ne signifie pas autant le travail qu'il fait, mais ce qu'il est intérieurement, c'est un homme qui a de la connaissance, qui a de l'expérience, un homme qui est reconnu pour sa sagesse. Et comme pour avoir tout ça, il faut du temps, eh bien c'est souvent une personne, pas toujours, mais souvent une personne qui a un certain âge, d'accord? Et donc un ancien. Et puis vient le mot que nous connaissons très bien, le mot pasteur, c'est un berger qui conduit le troupeau de Dieu. En Israël, il y avait deux sortes. Hein. Il y avait ce qu'on appelait le grand ou le souverain berger. Lui, il avait la responsabilité de plusieurs troupeaux. Et puis, il y avait le berger tout court ou le sous-berger qui s'occupait d'un seul troupeau sous les ordres du grand berger. Et voilà donc trois mots qui signifient ce que fait le pasteur et qui, je pense qu'en réfléchissant, peut-être que Moïse, il a fait tout ça. Hein, il a conduit le peuple de Dieu. C'était un homme de sagesse. Il avait un certain âge. Au début, quand il venait de traverser la mer Rouge, il avait quel âge? Quelqu'un s'en souvient?
80
ans. Et il allait vivre encore longtemps. Donc c'était un ancien, mais pas seulement vieux, c'est quelqu'un qui avait appris plein de choses et qui allait encore apprendre de Dieu. Et puis c'est quelqu'un qui surveillait, qui avait le regard sur le peuple de Dieu. Et j'aurais envie de l'avoir à côté de moi ce matin pour lui poser cette question. Moïse, après ses 40 ans derrière le troupeau, parce qu'il allait passer 40 ans dans le désert avec eux. Alors Moïse, fort de toute cette expérience, que nous apprends-tu du pasteur, de son rôle, de son, sa personne? Qu'est-ce que tu as appris, Moïse? Il y a plusieurs leçons qu'il a apprises. Nous n'allons pas prendre le temps, j'ai aucune prétention. Et puis surtout, aujourd'hui, il fait un peu chaud, non? Vous avez même plus chaud que moi parce que vous portez les masques. Mais je vais essayer de faire court. Et on va voir que quelques leçons qui me semblent être très évidentes dans la parole de Dieu, des choses que lui a apprises sur le tas, et que nous pouvons apprendre en lisant des chapitres fin d'Exode et tout le livre des Nombres qui raconte ces expériences-là. Et il nous les communique ce matin à ceux qui sont déjà peut-être pasteurs. Nous avons parlé de Nicolas tout à l'heure, mais on peut penser à d'autres qui sont déjà pasteurs. Et c'est des leçons qu'ils doivent prendre à cœur aussi pour bien faire le travail. Comme on a évoqué la possibilité que Dieu appellerait encore d'autres personnes à le servir comme pasteur, eh bien c'est bien qu'il fasse attention à ces choses avant même de le devenir. Vous savez, quand je suis devenu pasteur, enfin quand j'ai pensé à devenir un jour pasteur, la seule chose qui me venait à l'esprit, et ça arrive à d'autres aussi, à quel moment est-ce que nous voyons en activité le pasteur? Le dimanche matin. Hein? Et nous pouvons imaginer, ce serait faux, mais imaginez, seul le pasteur, c'est le pasteur, hein? Qui n'a pas travaillé pendant une heure de la semaine, et le matin en plus. Ouais. Ah, j'ai appris sur le tas aussi que c'est plus que ça. Donc, peut-être Dieu appelle l'un ou l'autre encore aujourd'hui à au moins considérer ça, et pour être bien préparé à ce ministère, ben, on peut apprendre même les expériences de Moïse, mais nous tous qui voulons, nous avons le désir de soutenir, encourager notre pasteur, c'est bien de savoir ce qui arrive devant lui à faire tous les jours, pas seulement le dimanche matin. Oui, j'ai pas présenté, j'ai Benjamin, vous connaissez Benjamin, mais aussi nous avons notre fils aîné qui est là également, André, et toute sa famille. Je vous demande pas de vous lever, hein. Mais ils sont là avec nous. Mais j'ai le souvenir à un moment donné, je ne sais plus si c'était André ou si c'était un autre de nos enfants. Je pense que lorsqu'il était à l'école, quelqu'un lui a demandé, mais qu'est-ce que fait ton père?
Oh, il ne fait rien, il reste dans son bureau tout le temps.
C'est quelque chose comme ça, non? On n'est pas sûr si c'était lui ou pas. Mais Moïse, il a appris certainement des choses, hein, pendant 40 ans. C'était pas un homme bête, hein. Il a appris des choses, quelques leçons pastorales qui nous diraient que le pasteur n'est pas à l'abri des critiques. J'ai pas voulu commencer par là, mais il faut que l'histoire commence là. Parce qu'on a vu la dernière fois qu'Israël a sorti de la mer Rouge, ils sont sur l'autre rive maintenant, ils voient que les débris des chars de Pharaon, ils s'éclatent de joie et de chants de reconnaissance. Ils sont tournés le dos pour commencer à marcher dans le désert. Ils avaient fait peut-être deux ou trois pas seulement. Première escale, critique. Critique. Alors ils auraient vu, bon, c'est moi qui ai formulé comme cela, hein. En quelque sorte, c'est pour dire à Moïse, tu fais pas ton job, hein. Tu fais pas le travail que tu devrais faire. Ici parmi nous, tu ne nous donnes pas de l'eau. Le premier escale, chapitre 15, c'est là au début du chapitre, il chante, à la fin du chapitre, il murmure. Dans quelle église aimeriez-vous être membre? Une église qui chante, une église qui murmure? Vous comprenez tous la réponse, vous n'avez pas besoin de répondre. Mais c'était, on n'a pas d'eau. Il y avait de l'eau, mais ce n'était pas potable. Deux chapitres plus tard, ils n'avaient même pas de l'eau. Et c'est là, la fois où Dieu lui a dit, mais frappe le rocher, vous vous souvenez de cette histoire-là, frappe le rocher, du rocher a jailli de l'eau en abondance, et pour eux, et pour leurs animaux. Mais au début, ils murmuraient contre Moïse, et puis, donne-nous de la nourriture au moins. Alors, c'est vrai, ils sont dans le désert, il n'y avait pas grand-chose qui poussait là dans le désert. Ils commençaient à en avoir faim. Et alors ils ont dit, mais donne-nous à manger. Et Dieu a donné de la manne. Et il a continué, c'était pas seulement un jour, mais jour après jour après jour, pendant 40 ans. Dieu n'a pas arrêté de donner la manne que le jour où ils sont entrés dans le pays et ils pouvaient bénéficier des récoltes qui étaient plantées par les autres en tête. Mais ils n'en avaient plus besoin. Tout ce temps, ils donnaient de la manne, et puis, il y avait même des cas, et je ne sais plus si c'est dans le même chapitre ou pas, mais il y avait une fois, ils se plaignaient, oh, cette manne, c'est pas mal, mais tous les matins, tous les midis, tous les soirs, 7 jours par semaine. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment les steaks frites? Vous dites rien, vous levez la main.
D'accord, vous pouvez pas dire.
Très bien, moi aussi j'aime les steaks frites. Hein? C'est bon. Mais 3 fois par jour, 7 jours de la semaine, 52 semaines par année, pendant 40 ans, je pense qu'au bout de ça, on dit, allez, un peu de variété, hein, dans le menu, ce serait pas mal. Et ils ont réclamé de la viande. Et Moïse est allé vers Dieu et il entendait des critiques comme ça tout le temps et il arrivait avec Dieu. Et Seigneur, où est-ce que je vais trouver la viande pour nourrir ces 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants? Comment je vais faire? Bon, Dieu a dit, laisse-moi faire. Je sais faire.
Ah bon? Tu sais faire ça?
Allez, vous allez voir, c'est pas seulement pour un jour, mais pendant 30 jours, un mois entier, vous aurez assez à manger. Et il a fait. Et il a fait. Mais c'était la critique qui venait vers Moïse. Alors, est-ce que c'est pas les choses qu'un berger est censé faire, nourrir, donner à boire à son troupeau? Bien sûr, ça c'est les choses de base déjà. Il a aussi à soigner, à protéger, etc. Mais il faut qu'il fasse au moins ça. D'ailleurs, il y a ce verset que nous connaissons tous dans la Bible, hein. L'Éternel est mon berger. Hein. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, c'est la nourriture. Il me dirige près des eaux. Voilà ce qu'il fait pour moi. Est-ce que Dieu n'a pas fait ça pour Israël? En tout cas, il ne l'a pas fait comme eux, ils entendaient. Peut-être pas au moment qu'ils voulaient. Et à la fin de sa vie, voilà ce que Moïse leur a dit par rapport à Dieu. Il t'a humilié, Israël, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mmh. Vous voyez, il avait une raison de faire ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu a toujours une bonne raison de toutes les décisions qu'il prend par rapport à vous, personnellement? Quand tout va bien, oui. Mais c'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident, des fois on en est doute, hein. Et on va vers l'Éternel, et quand tu es comme Job, Seigneur, qu'est-ce que tu fais, pourquoi moi, etc. Mais Dieu sait ce qu'il fait, et il a donné la main, oui, il leur a donné ça, quelque chose qu'il n'avait pas donné à quiconque d'autre dans toute l'histoire. Voilà, c'était déjà une critique qui était lancée à Moïse, tu fais pas ton job, et puis une fois, c'est en quelque sorte comme s'il disait, tu nous as abandonnés, Moïse est monté sur le mont de Sinaï, il est resté là pendant 40 jours, et vers la fin de ce temps-là, le peuple appelle Aaron, et dit, mais Moïse, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, ça fait 40 jours qu'on n'a pas vu, et peut-être il est même mort, fais lever Dieu. Vous voyez, c'est là où il a donné le bijou, etc. Il a fabriqué un veau d'or. Mais il pensait que le pasteur était parti. Il était là pour s'occuper d'eux. Puis il y avait une autre fois, tu ne nous donnes pas ce que nous voulons manger. Alors il y avait des fois où ils n'avaient rien à manger. Mais il y avait des fois aussi, ils avaient de quoi manger, mais ils n'en étaient pas satisfaits. Et dans le chapitre 11 du livre des Nombres, c'est une fois où il se souvient, oh, c'était tellement bien là-bas en Égypte, on avait des concombres. Vous avez des concombres? Moi aussi. On avait du poisson à volonté, on avait des melons. Je pense qu'on va manger des melons à midi. Enfin, je parle trop de ce que nous allons manger, parce que c'est midi, là. Et puis, on y pensait à toutes les bonnes choses qu'ils avaient à manger. Mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Bon, Dieu a encore pourvu pour Israël. Mais vous savez, le nom qu'on a donné à ce lieu-là, il faut regarder un peu dans les marges de votre Bible, si vous avez des notes. Mais si vous voyez la traduction du nom en hébreu qui était donné à ce lieu, le lieu où ils étaient à ce moment-là s'appelait le sépulcre de la convoitise. La convoitise est comme ça, hein? Oui. Et voilà, encore une critique faite à Moïse. Et puis, nous sommes aussi qualifiés que toi, Moïse, pour diriger ce peuple. D'ailleurs, nous n'aimons pas ta femme. Vous savez, ils ont dit ça à Moïse. Vous savez qui a dit ça? C'est son frère et sa sœur. C'est aussi simple, vous. Nous sommes aussi qualifiés que toi pour diriger ce peuple. Et ils ont même cru. Alors, faut dire que. Alors, je ne sais pas si Séphora est décédé entre-temps ou ce qui s'est passé, mais il avait pris pour femme une Égyptienne. Et les membres de l'Église pensaient qu'ils, enfin de l'Assemblée, pensaient qu'ils avaient le droit de dire au pasteur avec qui ils devaient se marier ou pas. Ils n'aimaient pas la nouvelle femme de pasteur. Quand on est pasteur, des fois, on entend toutes sortes de choses. On entend toutes sortes de critiques. Il y avait une fois, même aussi, ils sont arrivés, enfin, ils avaient fini avec le Sinaï, etc. Ils sont arrivés à la porte du Canaan, et Dieu leur a dit, entrez, entrez. Et ils ont décidé d'envoyer des espions pour voir. Et puis ils sont revenus dans le rapport, ça c'est censé être Josué et Caleb, parce que deux des douze, et les dix autres qui ont donné un mauvais rapport, ces deux-là ont donné un rapport encourageant. Nous pouvons prendre ce pays. Oui, il y a des géants. Oui, il y a des villes fortifiées, etc. Mais si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Voilà. Et voilà ce qu'ils ont dit à Moïse. Ils ont écouté la majorité et ils ont dit, mais Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans cette terre où tu nous conduis. Ça devait être dur, je crois, pour Moïse d'entendre jour après jour toutes ces différentes sortes de critiques. Bref, quand l'Assemblée d'Israël n'avait pas ce qu'elle voulait, elle rouspétait. Elle se plaignait. Elle murmurait. Et souvent, contre le berger. Mais vous savez qui était derrière le berger? C'était Dieu. Dans Romains, je crois, Romains chapitre 13, il est question d'avoir du respect pour les autorités que Dieu met au-dessus de nous. Et si nous ne le faisons pas, c'est pas seulement ces autorités que nous critiquons, mais nous critiquons celui qui les a mis en place, l'Éternel. Et vous savez, il y avait des fois que ça mit Dieu tellement en colère, je crois au moins deux, sinon trois fois, Dieu a dit à Moïse, j'en ai assez de ce peuple qui murmure, qui doute de moi constamment, je vais les anéantir tous et je recommence avec toi, Moïse. Je vais faire un nouveau peuple. Et Moïse n'a pas accepté. Et il a plaidé pour ce peuple-là. Il a dit, non, l'Éternel, tout le monde sait que c'est toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte. Et maintenant, si tu les détruis dans le désert, qui va te respecter? Et donc, il plaidait pour Israël. Mais ça arrive qu'un berger soit critiqué. Comme on a parlé tout à l'heure de ce qu'on mange après le culte, qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui après le culte? Non, vous dites rien, hein? Dites rien. Ça me met l'eau à la bouche, mais dites rien. Mais il y a une blague, je veux dire une très mauvaise blague, une petite plaisanterie que quelquefois les Américains disent par rapport à ce qu'ils mangent après le culte. C'est pas un rôti de porc, c'est pas un rôti de porc, c'est rôti de pasteur. Je pense qu'en France on dit on le met sur le grill, hein? Ou on met quelqu'un sur le grill quand on veut dire on voilà. Israël faisait souvent ça. Et vous savez, ça fait très mal aux bergers. Et ça ne nourrit pas ceux qui préparent le plat non plus. Donc, mais voilà, si vous êtes là aujourd'hui, vous pensez ah, peut-être un jour je deviendrai pasteur, si Dieu le veut, etc. Mais, oui, sachez que il peut venir aussi des critiques de temps en temps. Heureusement, c'est pas la seule leçon que Moïse a appris. Il a appris également que le pasteur peut compter sur son grand berger. Il est le berger de son troupeau, mais il y a quelqu'un au-dessus de lui en qui il peut avoir toute confiance pour l'aider. D'ailleurs, dans Hébreu, nous lisons ceci par rapport au grand berger des brebis. C'est la salutation, c'est pratiquement les derniers versets de cette épître qui disent que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, c'est qui? Notre Seigneur Jésus. Eh bien, que ce grand Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour accomplir sa volonté. On n'est pas capable de le faire par nous-mêmes. Mais il est capable de nous rendre capable de le faire, et aussi que ce grand Dieu de paix fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Facile de chanter « Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel » sans penser que si nous disons « Gloire à l'Éternel », nous lui disons en quelque sorte « Seigneur, je te permets de faire tout ce que tu veux en moi, comme tu le veux, le temps que tu le veux, pour me rendre capable de faire ta volonté et accomplir de bonnes œuvres. » C'est seulement lui qui peut le faire. Le grand berger. Et ça c'est bon à savoir et pour l'Église et pour le pasteur, n'est-ce pas? Alors Moïse, il a vu combien de fois il était soutenu personnellement. Dieu l'a soutenu dans sa tâche de berger de ce peuple-là. Il lui a donné quelquefois des instructions pour résoudre les problèmes quand il se présentait, Israël sans rouspéter. L'Éternel était toujours là, fidèle, quand Moïse avait besoin de lui. Est-ce que ça a changé depuis? Non. Vous n'êtes pas pasteur, peut-être, mais sachez qu'il est toujours là pour aider notre pasteur. Et ça, c'est formidable. Il a montré à ce pasteur de Moïse comment adoucir l'eau de Mara, l'eau qui était amère, qui était non potable. Lui a montré un arbre, je ne comprends pas tout ce qui est dans cette histoire-là, mais couper cet arbre, jeter dans l'eau, et ça va l'adoucir, le rendre potable. Il n'aurait pas pu le faire sans son grand berger. Il a miraculeusement pourvu à la manne, et aussi quand il fallait des cailles pour nourrir le peuple. Moïse n'avait pas ce pouvoir. Il a fait venir de l'eau d'un rocher dans le désert. Moïse n'aurait même pas pensé à ça. Nous non plus. Il a permis aussi aux soldats inexpérimentés d'Israël, il faut le dire, hein, parce qu'il y avait un autre chemin qui était déjà tout tracé, qui était bien connu dans le désert, qui était moins long pour aller dans la terre promise. Et Dieu a dit, non, je vais vous faire un chemin un peu plus long, parce que vous n'êtes pas encore prêts à affronter tous les défis, les armées qui sont là, et d'ailleurs, quand ils en avaient la possibilité, même après ce détour, d'entrer dans le pays, ils ont dit non. Non, les gens sont des géants, les villes sont fortifiées, etc., on va être massacrés. Alors ils étaient bien inexpérimentés, ils avaient travaillé pendant toute leur vie, et on ne sait pas, peut-être pendant plusieurs générations, comme esclaves, dans la maçonnerie, à cultiver la terre, etc. Ce n'étaient pas les soldats. Et un jour, dans le désert, ils étaient attaqués par les Amalécites. Je pense qu'ils ont envoyé les meilleurs d'entre eux. Hein. Et pourtant, Moïse ne les a pas abandonnés là. Il est monté sur la montagne. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Il est monté sur la montagne. Il n'était pas seul. Il y avait deux autres. Il y avait son frère Aaron. Il y avait un autre qui s'appelait Hur. Et ils étaient tous les trois là-haut. Et que faisait Moïse? Ben, il surveillait la bataille. Il n'avait pas à porter les armes lui, mais il levait les mains vers l'Éternel, implorait son aide. Mais des fois, comme nous qui travaillons sur la haie, hier, à un moment, je n'en pouvais plus. J'ai passé la taille à Mathieu. J'espère qu'il va mieux que moi ce matin. Mais, il était fatigué. Alors, Aaron, d'un côté, il a aidé à tenir un bras. Et eux, de l'autre côté, il a aidé à tenir l'autre bras. Que ensemble, ils implorent l'aide de l'Éternel. Et ils ont eu la victoire. Dieu a permis cela. Alors, il a aussi ouvert. Alors tout ça, c'est bien. Hein, on est content de ces histoires-là. Ceci, je ne sais pas. Il a ouvert la terre pour en goûter Cora. Vous vous souvenez de cet homme-là qui a voulu prendre aussi la tête du pays? Et il a été soutenu par 250 autres princes, grands personnages en Israël. Et il voulait prendre le pouvoir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait quelque chose que Moïse ne pouvait faire. Et voilà, il vient. Dieu vient soutenir son berger. Il a ouvert la terre pour les engloutir tout vif. Et puis il a infligé aussi la lèpre à Myriam. Quand il y avait Aaron et Myriam, apparemment Myriam était le plus coupable là, mais Dieu a infligé la lèpre. Et c'était raccourci dans le temps seulement parce que Moïse est intervenu prier pour celle qu'il avait critiquée. Quelque chose, hein? Oui, Dieu soutient fidèlement le pasteur qu'il choisit et qu'il met en place. Dans le Nouveau Testament, nous lisons ceci, c'est Jésus-Christ qui dit « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous connaissons bien ce verset dans la Bible, n'est-ce pas? Je pense que les pasteurs veulent bien faire. Savent que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent persévérer d'après vous? Vous pouvez faire comme ça, persévérer à l'intérieur. Oui, parce que on aime que le pasteur il reste en place pendant plus d'un jour ou deux. Hein? Ça fait 21 ans, je pense que pour Nicolas, il y a eu de la persévérance là. Merci Seigneur pour cela. Est-ce qu'un pasteur doit supporter? Oui, supporter les murs comme l'élection, des situations se compliquent, ouais, et on attend ça de lui aussi. Hein. Si le pasteur partait dès que le premier problème arrivait, on dirait c'est peut-être bien qu'il est parti. Alors, on veut quelqu'un qui sait soutenir, supporter les difficultés. Est-ce qu'il faut qu'il aime son troupeau?
Oui.
Bien sûr. Est-ce qu'il doit être prêt même à pardonner? Et puis on peut continuer longtemps. Oui, il faut qu'il fasse tout ça. Est-ce qu'il peut le faire tout seul? Bon, si c'est une petite difficulté, à un moment où il faut pardonner, si c'est seulement une fois, mais vous vous souvenez de ce que a demandé Pierre un jour. Mais Seigneur, combien de fois voulez-vous que je pardonne? Jusqu'à 7 fois? Déjà, pour lui, c'était énorme. Hein? Et Jésus-Christ a répondu quoi? C'est pas 7 fois, hein? C'est quoi? 70 fois 7 fois? Quelque chose comme ça? Oui. Je pense que là, Pierre a dû penser en lui-même, « Oh Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. » Mais, comme un autre pasteur a dit une fois, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Nous avons un grand berger. Hein? On est content pour le sous-berger aussi que le Seigneur nous donne, mais on est content qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui peut faire pour lui ce que nous ne pouvons pas faire pendant tout temps et qui l'aide dans ses tâches. Ça, c'est la deuxième leçon. La première leçon, un pasteur n'est pas toujours à l'abri des critiques. Deuxième leçon, malgré tout ça, il a le soutien et l'aide de son grand berger. Maintenant, troisième leçon que nous pouvons apprendre, le pasteur intercède pour son troupeau. Et là, j'étais frappé en lisant tous ces chapitres dans l'Ancien Testament de voir combien de fois Moïse, même quand il était critiqué, etc., son premier réflexe était d'aller vers le tabernacle et de se prosterner là devant l'Éternel et de prier. Il priait. Et en cela, il est comme Jésus-Christ qui a aussi prié pour ses disciples, n'est-ce pas? Vous vous souvenez peut-être de cette histoire-là, quand Jésus est dans la chambre haute avec ses disciples, c'est la Pâque, la dernière Pâque pour Jésus avant de mourir, donc il a quoi, juste quelques heures hein, avant d'aller sur la croix. Et il voulait manger cette Pâque, alors il y avait une dispute à un moment donné entre les disciples pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Il y a plein de choses qui se sont passées pendant le souper là. Mais à un moment donné, c'est Jésus qui prend la parole, qui l'adresse à Pierre en disant « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous cribler. » Vous savez ce que c'est, hein? Vous avez du sable ou quelque chose comme ça à travailler et vous avez une espèce de cerceau comme ça avec genre de... Moi, je dirais moustiquaire, quelque chose comme ça, avec des tout petits trous.
C'est tamis.
Tamis, oui, voilà. Et puis vous mettez votre terre ou votre sable dedans et vous le secouez comme ça pour avoir juste le bon grain, hein, pour faire votre travail. Mais c'est ce que Satan veut faire de toi. Il vous met dans son tamis. Il le secoue. Il veut voir. Il a fait ça pour Job, non? Aussi, oui. Peut-être pour certains d'entre nous à un moment donné, mais nous étions peut-être surpris, comme Simon a été surpris d'entendre Satan a demandé. À qui a-t-il demandé ça? Ben, à Dieu. Il ne pouvait avoir la permission que de par Dieu, hein, de le cribler comme le blé. Est-ce que Dieu lui a accordé ce droit? Oui. Oui. Et le moment, le lendemain, où il va aller dans la cour, hein, du coup, dans un sacrificateur, et la petite fille qui va venir vers lui pour dire « Ah, tu es avec lui, non ?» Ah, Satan est en train de secouer. Et puis un peu plus tard, un autre qui dit la même « Ah, ouais, tu es un de ceux-là. » Il était bien criblé. Mais, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne fasse pas défaut. Oui. Un pasteur doit prier pour son troupeau, mais il faut savoir aussi que le grand berger prie aussi pour son pasteur, et il prie pour son église également. Alors, Moïse, il priait. Quand Israël était menacé par des gens hostiles, il monte sur la montagne, il prie dans cette occasion-là, il prie pour Israël, qui démontrait qu'elle avait la cour raide. Ça signifie qu'on ne pouvait pas, il n'était pas souple entre les mains de Dieu. Il faut tourner dans la direction que Dieu voulait. Il voulait aller dans sa direction. Et pourtant, Moïse priait. Il priait quand Israël murmurait, oubliant le pouvoir et les bienfaits de l'Éternel. C'est étonnant de lire ce récit encore dans Exode et dans le livre des Nombres et de voir combien de fois, quelquefois même juste après une grande intervention de Dieu, le peuple se met à murmurer comme si rien ne s'était passé. Il n'avait pas confiance en l'Éternel. Et il priait même, Moïse priait même quand Israël l'accusait faussement. Comme on a vu tout à l'heure, hein, pour Myriam et les autres, et quand il était même menacé de mort. Sa réponse n'était pas de se venger contre qui murmurait contre lui, mais de prier l'Éternel. Viens à mon secours. Oui, un pasteur doit intercéder pour son troupeau. Et pour cela, il doit mettre de côté ses ambitions, son ego, ses sentiments personnels quelquefois, pour se concentrer sur quoi? Le bien de son troupeau. Et surtout, la gloire de son grand berger. Si je renonce à ma tâche, qu'est-ce que ça fera pour la réputation, la gloire de mon Dieu? Alors il prie. Mais quand on dit... Un pasteur doit faire ça pour l'Église. En réalité, tous les disciples de Christ doivent prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 6, verset 28, c'est Jésus-Christ qui donne ce conseil à tous ses disciples, disant « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Je pense entendre les malédictions et d'être victime de maltraitance. C'est pas agréable. Et pourtant, il dit bénir, prier. Et puis, dans Éphésiens chapitre 6, verset 8, Nous lisons ce conseil aussi donné par l'apôtre Paul, qui a fondé beaucoup d'églises. Il a dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Tous les sujets, toutes les situations, veillez à cela avec une entière, comme il est dit dans certaines traductions, entière persévérance, toute persévérance, et priez pour tous les saints. Alors, c'est le conseil que lui, en tant que pasteur, donnait à une église qu'il avait fondée. Ça, c'est notre responsabilité à nous tous. Alors, maintenant, je ne fais pas ça souvent, mais on n'est pas super nombreux aujourd'hui, regardez à votre droite. Vous voyez quelqu'un là? Non. Alors, regardez à votre gauche. Allez, regardez à votre gauche. Alors, vous voyez la personne qui est là? Est-ce que vous ne voulez pas prendre l'engagement aujourd'hui? Seigneur, je vais prier pour ces personnes que je viens de voir pendant cette semaine. Vous voulez le faire? Vous êtes content quand les autres prient pour vous? Allez. Alors, prions les uns pour les autres. C'est, je crois, une chose que Pasteur Nicolas fait souvent pour chacun de nous. Je me dépêche, un pasteur, dernière leçon pour aujourd'hui. Un pasteur a besoin d'aide en travail. On ne peut pas tout faire. Déjà, quand on voit tout ce qu'on a déjà vu, hein, et peut-être la victime des critiques, il a son grand berger, quand même, qui est là pour l'aider. Il doit intercéder, même quand les critiques viennent vers lui, donc il doit intercéder en tout temps pour son troupeau. Ben, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Et, est monté sur la montagne. Il s'est fatigué à prier et à intervenir auprès de Dieu pour le peuple qui se battait en bas contre ces méchants Amalécites. Et heureusement, il y avait des personnes qui étaient là pour intercéder avec lui. Et c'est bien quand nous en avons la possibilité. Je sais que tout le monde n'en a pas. Mais quand il y a une réunion de prière dans l'église que le pasteur organise, où nous pouvons ensemble prier les uns pour les autres, qu'on soit aussi nombreux que possible, que le pasteur ne se regarde pas à sa droite et à sa gauche pour dire je suis tout seul à prier. Non, il y a d'autres. Et Aaron et Hur étaient un grand secours pour lui. À un moment donné, même son beau-père, qui n'était pas juif, qui était, on dirait, un païen, il était d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était un prêtre païen. Il n'avait pas l'habitude d'entendre la voix de l'Éternel. Il voyait bien que ce que l'Éternel faisait pour les Israélites. Mais son cœur était tourné ailleurs. Et pourtant, un jour, il regarde Moïse agir pour juger le peuple qui venait vers lui avec leur plainte pour connaître quelle était la volonté de Dieu dans ces affaires-là. Et tout devait passer par lui. Et ce beau-père lui a dit, merci Seigneur pour nos beaux-pères et nos belles-mères qui donnent de bons conseils quelquefois. Et il a dit, ça c'est pas bien ce que tu fais là, Moïse, tu as besoin d'aide. Et le Seigneur l'a aidé à choisir 70 anciens parmi le peuple pour juger. Et puis, il avait besoin aussi au moment où il fallait construire le tabernacle. Je ne pense pas, il a été instruit dans toutes les connaissances des Égyptiens, mais je ne sais pas s'il était vraiment artisan, comme l'a été Betsaël et Oliab, en qui Dieu avait mis son esprit pour qu'il reproduise fidèlement ce que Dieu a donné comme plan pour ce tabernacle. Et c'était apparemment des artisans hors pair, qui avaient, qu'est-ce qu'on dirait, des doigts d'or, mais ils avaient surtout l'Esprit de Dieu en eux. Moïse avait besoin de ces gens-là, avec ses compétences aussi. Il avait besoin des Lévites à un moment donné. Lorsqu'il est redescendu de la montagne, il voyait l'idolâtrie qui se pratiquait là, etc. Il a demandé alors qui ira pour aller parmi le peuple, les juger pour ce qu'ils font là. Et il y avait des Lévites qui sont venus pour l'aider. Bon, il y avait plusieurs fois qu'il avait eu de l'aide et c'était toujours Dieu, le grand berger, qui a pourvu ses collaborateurs. Et peut-être, si vous n'êtes pas pasteur ici aujourd'hui, vous êtes un de ses collaborateurs. Ça, c'est formidable. Vous savez, encore aujourd'hui, on a besoin des personnes pour s'occuper des enfants. Est-ce que c'est Nicolas qui monte tous les dimanches pour s'occuper des enfants?
Oh. Il pourrait sans doute, c'est pas mal, hein?
Mais je pense qu'il est très content. Moi, j'ai élevé 4 enfants. Mais je pense que c'est surtout ma femme qui a élevé les 4 enfants. Et on est content quand on peut avoir des personnes autour de nous qui ont les compétences que nous n'avons pas personnellement. Alors, merci Seigneur pour ceux qui font l'école des dimanches avec les enfants, qui gardent la nourriture des enfants. On a besoin aussi de faire le nettoyage et l'entretien de l'église. J'étais content hier de travailler un petit peu là-bas avec les frères. Et puis je sais que pour d'autres occasions, vous en êtes d'autres pour faire ça, j'ai touché à quelque chose. Mais aussi pour assurer les activités de l'église, il y a parfois de l'évangélisation, il y a des classes, il y a toutes sortes de choses, organiser les fêtes de l'église, etc. On aime bien avoir des activités un peu spéciales quelquefois. Et le pasteur, il doit faire tout ça. C'est bien quand il y a des collaborateurs. Quand Dieu met par son esprit dans le cœur de l'un ou de l'autre, vraiment le désir, je vais aider mon pasteur. Je vais aider mon église. Et je pense que l'église est heureuse. Et le pasteur aussi. Si elle et lui peuvent compter sur les membres engagés dans l'assemblée. Vous voyez? Amen. Merci. Je regardais vers Mathieu parce qu'il demandait Amen, Amen. Vous n'étiez pas sûr d'entendre un fond Amen à la fin de tout ça. Mais c'est vrai, quand les gens viennent dans une église et on voit des personnes qui sont engagées, mais heureusement engagés, qui prennent leur joie à se rendre serviteurs les uns les autres. Ça fait beaucoup de joie. Pour conclure, si Dieu vous appelle à être pasteur, il vous formera. Il vous formera. Il vous assistera aussi jour après jour et pendant tout le ministère qu'il vous accorde pour servir l'Église comme il avait fait pour Moïse. Je pense que aussi nous pouvons prier les uns et les autres que Dieu suscite, même dans notre petite assemblée ici, des jeunes gens qui vont se dire, si Dieu le veut, le pasteur, eh bien, j'aurai pas le courage. Hein? Je vais dire, oui Seigneur, envoie-moi. Et puis, nous pouvons tous dire, oui, nous nous engageons derrière la pasteur que Dieu nous a donnée.